Les commodités sont des produits standardisés, en général proches des matières premières, qui font l'objet d'un commerce mondial. Par exemple, le pétrole, l'acier, l'aluminium, les céréales, les engrais. Mais sont également des commodités des produits plus élaborés, comme l'électricité sur les marchés de gros de l'électricité, les taux de fret sur les principales lignes maritimes, voire certains composants standards comme les mémoires mortes dans l'industrie électronique. Les commodités font l'objet d'un commerce mondial. La structure du marché est très généralement concurrentielle, avec un nombre relativement grand de producteurs. Puisque le produit est standardisé, les producteurs ne peuvent pas le différencier ou leur attacher une image de marque. La compétition passe donc uniquement par les prix. Ces marchés s'approchent par conséquent de la situation de marché parfait, produit standardisé, information complète et partagée sur les qualités du produit et forte compétition par les prix. Cependant, ils sont particulièrement volatiles. Or, la volatilité des prix est néfaste à l'efficacité économique. Sauf si les acteurs peuvent intégralement se couvrir contre les risques de fluctuation des prix, et rappelons-nous que c'est la fonction des marchés dérivés. Or, la plupart des commodités, justement parce que leurs prix fluctuent, sont dotées de marchés dérivés. Donc, sauf si les acteurs peuvent intégralement se couvrir, une grande incertitude sur les prix futurs peut en effet perturber et donc rendre moins efficaces leurs décisions d'investissement. Par ailleurs, certains États où sont produites ces matières premières dépendent très largement de leurs prix mondiaux pour leurs ressources budgétaires et pour l'équilibre de la balance commerciale du pays. Les fluctuations des prix mondiaux des commodités rendent donc la gestion des finances publiques et du commerce extérieur de ces pays, gros exportateurs, particulièrement difficile. De ce double point de vue, la forte fluctuation des prix des commodités n'est donc pas optimale selon la norme d'efficacité paresienne. Mais cette instabilité, d'où provient-elle? Pour l'analyser, nous allons utiliser un modèle de prix légèrement plus sophistiqué que celui qui a servi à cerner les vertus de la concurrence au chapitre 17. Nous prenons ici l'exemple d'un marché de commodités minérales. Les producteurs sont donc des compagnies minières, métallurgiques, chimiques ou pétrolières. Et cela vous donnera un exemple de modèle que l'économie peut utiliser pour analyser des marchés concrets avec des caractéristiques techniques bien particulières. Le fonctionnement de ce marché d'une commodité minérale se lit sur ce graphique. Dans ce graphique, on déduit le prix d'équilibre du marché et son évolution dans le temps de la forme des courbes d'offres et de demandes. Commençons par la courbe d'offres. En situation compétitive, c'est-à-dire lorsque le nombre d'offreurs est tel qu'aucun d'entre eux ne peut espérer faire monter le prix en réduisant sa production, tout producteur a intérêt à produire à pleine capacité tant que le prix de marché est supérieur à ce qu'on appelle le cash cost de la production. Qu'est-ce que le cash cost? Eh bien, comme son nom l'indique en anglais, ce sont les dépenses en cash, les sorties de caisse qu'il en coûte réellement pour produire dans une installation donnée. Elles sont donc pour l'essentiel constituées des consommations intermédiaires, et de l'énergie en particulier, des dépenses de personnel et des taxes liées à la production. Mais les cash costs ne comprennent pas l'amortissement et la rémunération des investissements initiaux, c'est-à-dire des investissements qui ont permis de construire l'unité de production. Dans l'industrie minérale, qui est fortement capital intensif, c'est-à-dire que l'investissement initial pour construire la mine ou l'usine est élevé. Premièrement, les cash costs ne représente qu'une petite part du coût unitaire total. Et deuxièmement, ces cash costs diffèrent selon les mines, car les mines ont des qualités naturelles différentes. Et le coût de production diffère selon la qualité des mines. Si bien que la courbe des cash costs des unités existantes a cette forme que nous voyons ici de marche d'escalier. À ce prix-là, par exemple, ces trois unités produisent, car leur cash cost est inférieur ou égal au prix de marché, et celles-ci cessent de produire jusqu'à ce que les prix remontent. La courbe des cash costs de toutes les unités capables de produire constitue donc la courbe d'offre de ce marché. Quant à la demande, pour l'acier par exemple, elle est particulièrement inélastique au prix. Du moins à court terme, c'est-à-dire la demande du trimestre prochain ou de l'année prochaine. Cela signifie que quand les prix de l'acier baissent, par exemple, la demande n'augmente pas pour autant ou très peu. Et quand les prix de l'acier montent, la demande ne se réduit pas ou très peu. Les consommateurs d'acier, en effet, qui sont des industriels fabriquant des objets en acier, quand le prix de l'acier monte, se contente de transférer la hausse du prix de l'acier dans le prix des produits en acier. La courbe de demande est donc presque verticale. C'est ce qui traduit son insensibilité à la hausse ou à la baisse des prix. En revanche, d'un trimestre sur l'autre ou d'une année sur l'autre, elle se déplace fortement dans le temps. Puisque la consommation d'acier, continuons avec cet exemple, amplifie les fluctuations de la conjoncture économique. Quand il y a reprise économique, on investit dans des machines, des bâtiments, des infrastructures, et donc on consomme beaucoup plus d'acier. Et dans les périodes de récession, la production d'acier chute encore plus vite que le PIB. En bref, la demande à court terme, le trimestre ou l'année en cours, est 1. Très peu sensible aux variations de prix, c'est la forme verticale de la courbe de demande, et très volatile dans le temps. La conséquence de la forme de ces courbes d'offres et de demande d'une commodité minérale est que le marché passe alternativement par deux états. Partons d'une situation issue du passé, on verra pourquoi, de surcapacité. La courbe de demande est ici. La demande peut donc être satisfaite sans qu'il soit nécessaire que toutes les unités produisent. Trois suffisent. Il y a donc surcapacité. Si ces unités sont en concurrence, elles produisent, on l'a dit, tant que le prix est supérieur à leur cash cost. Par conséquent, le prix d'équilibre de marché s'établit au niveau du cash cost de la dernière unité dont la production est nécessaire pour satisfaire la demande à ce prix. Vous le voyez, c'est une situation de guerre des prix, de prix très bas. Il reste bien sûr supérieur ou égaux au cash cost des unités existantes, sinon elles ne produiraient pas, mais il ne couvre certainement pas l'amortissement du capital initial et sa rémunération avec le rendement attendu. Sauf peut-être pour l'unité qui a les cash costs les plus bas et qui bénéficie par conséquent de ce qu'on appelle une rente différentielle. Pendant ces phases de prix déprimés, évidemment, aucun investissement n'est fait pour développer de nouvelles capacités de production. En effet, le coût total de développement de ces nouvelles capacités, qui est indiqué ici, est très supérieur au prix de marché. Si un industriel avait le projet de construire une nouvelle unité, et s'il allait voir ce banquier, le banquier lui demanderait quel est votre coût, et constaterait que le prix de marché est très inférieur, et lui recommanderait probablement d'attendre. Pas d'investissement, pas d'augmentation des capacités, épuisement des mines existantes et malgré tout une demande qui croît petit à petit avec la croissance économique, on finit par résorber les capacités de production excédentaires. Et à ce moment-là, la moindre augmentation de la demande déclenchent de violentes envolées des prix. Dans le langage professionnel de l'industrie, on parle de fly-up. Pendant ces périodes, les consommateurs sont prêts à payer à peu près n'importe quel prix pour avoir de la marchandise. Et les firmes se rattrapent en matière de profit. Ces envolées durent entre 1 et 3 ans, le temps de développer de nouvelles capacités de production. Mais toutes les firmes lancent leurs projets en même temps, pour profiter les premières des prix très élevés du fly-up. Et ceci engendre par conséquent des surcapacités. On retombe donc dans la situation initiale de guerre des prix et dans une longue période de prix stagnant au niveau des cash costs des unités marginales. Voilà donc des marchés concurrentiels de produits standardisés qui produisent une forte fluctuation des prix. Or, on a vu que cette fluctuation pouvait être néfaste à d'autres acteurs de l'économie, les consommateurs ou les États des pays producteurs. De plus, ces fortes fluctuations augmentent le risque des actionnaires des compagnies minières, donc le rendement moyen attendu par ces actionnaires et donc le prix moyen du marché. Au chapitre précédent, nous avons vu qu'il existait des monopoles et des oligopoles naturels et qu'il s'agit là d'une imperfection de marché, c'est-à-dire d'une situation où le marché ne conduit pas à une situation Pareto optimale. Voilà maintenant que même les marchés les plus proches de la perfection théorique, hein, le produit est parfaitement défini, l'information sur ce produit est complète et symétrique, il y a une vive compétition par les prix, et bien même ces marchés ne sont pas parfaits si l'on considère leur fonctionnement dynamique et non leur équilibre instantané. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la raison théorique de cette fluctuation des prix des commodités est qu'il n'est pas possible pour les producteurs et pour les consommateurs de vendre ou d'acheter la commodité à l'avance pour, par exemple, toute la durée de vie d'une mine, s'agissant du producteur, ou toute la durée de vie d'une nouvelle automobile qui utilise un certain produit pour ce qui est du consommateur. Ce rêve éveillé des économistes théoriciens s'appelle des marchés complets. Les marchés sont complets quand ils fixent aujourd'hui des prix pour les échanges aujourd'hui, mais pour toutes les échéances futures, toutes, auxquelles sont prêts à acheter ou vendre les agents. De tels marchés auraient en effet la vertu de stabiliser les fluctuations décrites jusqu'à présent, car ils permettraient aux entreprises d'investir à temps en s'assurant de leur prix futur et ainsi d'éviter des fly-up déstabilisants. Ce rêve connaît d'ailleurs, on l'a vu, un début de réalisation avec les marchés dérivés. Mais les échéances des marchés dérivés sur les marchés de commodités ne couvre au plus que quelques années, 3 ans, rarement plus. Mais s'il en est ainsi, c'est tout simplement parce que les firmes minières elles-mêmes n'utilisent pas des échéances plus éloignées, ou bien qu'elles ne les utilisent pas assez pour que le marché soit liquide. En réalité, les firmes préfèrent assumer l'essentiel du risque de fluctuation à long terme des prix elles-mêmes. Je peux témoigner personnellement que j'ai été dans la totale impossibilité de conseiller au conseil d'administration d'une firme minière qui me le demandait une politique de couverture de risque prix optimal. Car en vérité, il n'y en a pas. Et dans la pratique, la politique de couverture d'une firme minière dont les prix des produits fluctuent amplement est discuté dans un comité spécial du conseil d'administration et ce sont à la fin les actionnaires majoritaires qui décident. En effet, si l'entreprise est beaucoup couverte, c'est-à-dire si elle a vendu à un prix fixe à l'avance une grande partie de sa production, Les actionnaires s'en féliciteront si le prix baisse, mais ils regretteront amèrement des profits plus importants, d'autant que certains de leurs concurrents les auront, eux, engrangés si le prix monte. Le mieux, évidemment, serait de faire ce que font les autres, mais on ne le sait pas. C'est là, on s'en souvient, la cause même de l'instabilité de la finance de marché. On a intérêt à faire comme les autres, mais on ne sait pas ce qu'ils feront. De plus, le risque, ne l'oublions jamais, signifie probabilité forte de perte, mais aussi de gains exceptionnels. Or, il y a toujours des investisseurs et des entrepreneurs qui recherchent rendement et risque élevé. Et par conséquent, on peut faire l'hypothèse que les investisseurs et les entrepreneurs n'aiment pas autant les marchés parfaits que certains économistes.